Bonsoir à tous et merci d'être venus dans les salons MOLA pour venir à la rencontre de Stéphane Bourgoin qui vient présenter son dernier livre qui a tué le Dahlia noir. Présenter Stéphane Bourgoin, ça pourrait faire le sujet pratiquement d'une conférence. On pourrait y passer énormément de temps parce que on sait qu'il a consacré énormément, des dizaines de livres aux tueurs en série, mais il a également eu d'autres activités, et il a encore d'autres activités, notamment par exemple diriger une librairie à Paris, je pense toujours, Le Troisième Œil, c'était François Guérif qui avait monté ça, qui est le directeur de collection chez Rivage. D'ailleurs, Stéphane Bourgoin a aussi été directeur de collection chez Bourgoin, la série B. Quelques temps. Alors j'ai appris en lisant, en parcourant le dictionnaire des littératures policières de Claude Mesplède, une espèce de bible sur la littérature policière. J'ai vraiment découvert quelque chose sur vous, Stéphane Bourgoin, c'est que vous avez été gardien de but du Red Star à la fin des années 70. Or, le Red Star, à l'époque, je pense, c'était en deuxième division, non?
En première et deuxième division.
Oui, il a été en première.
On faisait tout le temps l'ascenseur.
Ah oui, parce que c'était une équipe parisienne. C'était le rival un peu de ce qu'est devenu le PSG maintenant. Mais le Red Star, c'était...
J'étais à ce jour le deuxième plus jeune gardien de but de l'histoire du football professionnel en France. Puisque j'ai démarré ma carrière professionnelle à 16 ans et quelques.
Donc vous voyez, c'est bon. Ça va être peut-être le seul petit moment de paix, de tendresse qu'on va avoir dans cette soirée. Mais bon, gardien de but, oui, Stéphane Bourgoin a aussi été gardien de but.
Pendant
7 ans. Donc c'est quand même, c'est toute une carrière professionnelle qui aurait pu... on pourrait être en train de parler là de votre dernier ouvrage, « Comment j'ai arrêté un but de d'Ibrahimovic ». Bon, par exemple... Non, peut-être que ce ne serait pas le même public qu'on aurait. Alors donc, on dit des dizaines de livres sur le phénomène des tueurs en série. Alors, ça s'explique par un épisode tragique de sa vie, parce que Stéphane Bourgoin est allé aux États-Unis, il a été réalisateur de films, et à un moment donné, il y a eu un épisode tragique qui fait qu'il a perdu sa compagne à cause... D'un tueur en série. Et donc, c'est à partir de là, si je comprends bien, que vous avez commencé à vouloir savoir ce qui se passait dans la tête de ces gens-là.
Oui, en 1978, quand l'assassin a été arrêté et qu'il a reconnu une dizaine d'autres crimes supplémentaires. Et à cette époque-là, le mot « serial killer » n'existait même pas. Mmh. J'ai voulu, parce que j'ai eu accès aux aveux du tueur en tant que partie civile, et ça m'est apparu à l'époque comme un crime gratuit, chose que ça n'est jamais réellement. Et j'ai voulu obtenir des réponses. Évidemment, je me suis tourné vers des ouvrages et je me suis rendu compte qu'il n'existait aucun ouvrage sur ce type de criminel multirécidiviste. Ni en langue anglaise, ni en langue française. Petit à petit, ça cheminait en moi qu'il fallait que j'obtienne des réponses et je me suis dit que la meilleure façon d'y arriver, c'était d'aller à la source et de les rencontrer. Donc, 1979, ça fait déjà 36 ans. Maintenant que j'interroge des tueurs en série, j'en ai interrogé... Les derniers, ça devait être il y a quelques mois à peine en Ukraine. Donc, j'en suis à des rencontres avec 77 tueurs et tueuses en série à travers le monde.
Voilà, ce qui vous permet aussi, donc, vous avez acquis donc une certaine expérience, une certaine expertise dans ce domaine. Et ça évite tout de suite les questions qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui peut fasciner quelqu'un dans ce domaine. Alors, je voudrais quand même revenir un petit peu en arrière et puis essayer d'évoquer cette rassurante inquiétude maternelle qui, pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, a bercé notre enfance avec des histoires assez terribles. Je citerai Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, le Petit Pousset, Barbe Bleue. On a tous en mémoire encore l'écho de ces histoires. Et quand on est un enfant, on sait que on est dans la vallée rieuse, mais que pas très loin, il y a la forêt profonde, et que dans cette forêt profonde, il y a des êtres malfaisants, des ogres. Alors toute la question qui se pose quand on grandit et qu'on reçoit en écho la brutalité du monde et la réalité du monde, c'est de se dire, de se poser la question, est-ce que cette vallée rieuse et cette forêt profonde, ce sont deux planètes qui se font face, le bien et le mal qui s'opposent, ou bien est-ce que elles sont, ce sont deux territoires qui n'en font qu'un et qui sont intimement mêlés, et ça va compliquer un petit peu la chose pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors la littérature, évidemment, s'est emparée pour adultes de ce phénomène. On disait que Stéphane Bourgoin était directeur de littérature policière, mais c'est évident que le roman policier, c'est le prolongement du conte. C'est une évidence et c'est aussi un petit peu quelque chose qui a été dit déjà mille fois. Et c'est vrai que avant la guerre, avant même la Première Guerre mondiale, hein, quand on est dans la période positiviste, on a l'idée que le crime, c'est un accident dans l'ordre du monde et qu'on va pouvoir le réparer grâce à l'intelligence d'un détective. C'est tout ce qu'on voit avec Conan Doyle et d'autres détectives qui nous ont marqués. Mais c'est vrai que la Première Guerre mondiale va créer une rupture, que les massacres de masse vont amener l'émergence d'un nouveau type de roman, ce qu'on a appelé les romans durs, les romans noirs, avec notamment aux États-Unis avec Dashiell Hammett, qui un peu comme Stendhal disait qu'il fallait promener le miroir dans le ruisseau, lui, il a décidé que le crime, c'était pas simplement quelque chose qui se passait dans un château, mais ça se passait aussi à côté de chez nous, dans nos rues, et donc on retrouve cette violence du monde. Et cette fois, il y a une espèce d'insécurité, parce qu'on sait très bien qu'à la fin du roman, l'ordre n'est vraiment rétabli que de façon provisoire. Et puis, la question que je posais sur est-ce qu'il y a une planète, il y a deux planètes qui se font face, ou bien est-ce que c'est un seul et même corpus qu'il faut identifier, on la retrouve dans le roman policier avec l'idée que peut-être c'est l'organisation du monde qui est mauvaise et qu'il suffirait de réparer le monde pour arriver à supprimer le crime. Alors, Dashiell Hammett était très engagé politiquement. Parallèlement, au même moment, il y a quelqu'un d'autre, c'est Chandler, un petit peu après, qui lui aussi développe cette idée que il y a une espèce de corruption sociale qui génère le crime, mais en même temps qui interroge plus l'intimité. Alors ça peut être l'intimité des familles, comme dans Le Grand Sommeil, avec la famille du Sternwood, mais ça peut être aussi l'intimité de chacun d'entre nous. Et la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, on va arriver au sujet de ce livre qui a tué le Dahlia noir, parce que là, on voit bien que beaucoup d'auteurs se penchent sur la psychologie du criminel. C'est-à-dire, Stéphane Bourgoin nous disait qu'il avait rencontré plus de 77 tueurs en série, parce que c'est effectivement comprendre à chaque fois la singularité peut-être de ces hommes, mais c'est aussi comprendre que c'est quelque chose de très compliqué et que c'est lié évidemment souvent à l'histoire personnelle du criminel. Donc on va avoir des auteurs comme Ross MacDonald qui vont écrire des romans très axés sur la psychanalyse. Le 15 janvier 1947, quand à Los Angeles on va découvrir le corps d'une femme démembrée dans la rue, pas dans la rue, mais en fait dans un terrain vague de Los Angeles. Évidemment que, vous le disiez tout à l'heure, le mot serial killer n'existe pas encore. La police n'est absolument pas préparée pour affronter ce genre de choses. Et alors, cette femme va entrer dans la légende, on va l'appeler le Dahlia noir. La première question que je vais vous poser, d'ailleurs, c'est pourquoi le Dahlia noir?
Alors, pour deux raisons essentielles. D'abord, elle s'habillait toujours en noir et elle portait toujours ou quasiment toujours un dahlia noir dans sa chevelure. Et puis aussi, ça rejoint le film noir, à cette époque-là, quelques mois auparavant, était sorti un film avec Alan Ladd et Véronique Allègre qui s'appelle Le Dahlia Bleu, de Blue Dahlia, qui est un scénario original de Raymond Chandler et qui jouait toujours dans les salles à cette époque-là. Parce qu'en fait, Le jour même du meurtre, le 15 janvier 1947, donc c'était hier, il y a 68 ans, qu'on retrouvait le corps, mais en fait elle a été assassinée le jour précédent, sort une édition spéciale d'un journal qui s'appelle le Los Angeles Herald Examiner, qui appartient au grand magnat de la presse Randolph Hearst. Ça vous dit peut-être rien ce nom, mais si vous avez vu le film Citizen Kane, Orson Welles y incarne la copie conforme de ce magnat de la presse, Randolph Hearst. Ils sortent une édition spéciale et c'est la deuxième meilleure vente de toute l'histoire de la presse américaine, depuis que des journaux paraissent, devant l'annonce de Pearl Harbor, devant l'annonce du largage de la bombe atomique à Hiroshima et devant l'annonce de l'arrêt, par exemple, de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, dans cette édition, l'assassin, d'ailleurs, cette affaire criminelle, porte le nom de Werewolf, du loup-garou. Mmh. Pendant quelques jours, à peu près 4-5 jours, c'est le nom qui va être attribué à cette affaire à cause des sévices subis par la victime. Je dirais que cette importance des médias est quasiment l'élément majeur de cette enquête criminelle.
Mais d'ailleurs, vous dites que c'est la façon dont les médias se sont emparés de cette affaire, c'est la raison qui fait que tout dérape.
Quand on voit les photos que je publie de la scène de crime... C'est assez incroyable. On voit que c'est des journalistes qui entourent le corps. On voit des journalistes qui touchent le corps, hein, qui le manipulent. Ça va être les journalistes qui vont identifier avant même la police, le Los Angeles Police Department, le corps de la victime. Ce sont eux qui vont quasiment kidnapper la mère de la victime en la faisant venir à leurs frais dans les bureaux du journal pour l'interroger en premier. Ce sont eux en premier qui retrouvent les affaires personnelles d'Elizabeth Short, qui les manipulent, qui reçoivent aussi le seul courrier qui est authentifié de l'assassin du Dahlia Noir, qui est en fait un paquet qui contient certaines des affaires personnelles de la victime, mais qui n'est pas manuscrit, le message est écrit avec des lettres découpées dans les journaux, et en plus ce message a été trempé dans de l'essence pour ne pas laisser d'empreintes et de traces. Donc on voit que l'assassin est extrêmement bien organisé, qui prend beaucoup de précautions, et voilà pourquoi, ce qui est tout à fait inhabituel pour une affaire criminelle aux États-Unis, le Los Angeles Police Department décide tout de suite de garder secret le rapport d'autopsie à cause de cette médiatisation extrême qui fait que, en l'espace d'un an, 400 personnes au moins vont avouer être l'assassin du Dahlia Noir. Et le seul moyen de les confondre, c'est de garder secret ce rapport d'autopsie parce qu'il y a eu un certain nombre de gestes commis par l'assassin, absolument abominables, qui sont très spécifiques et qui permettent aux policiers de confondre tous ces faux coupables et tous ces pseudo-aveux. Et à ce jour, ce rapport d'autopsie, maintenant, à l'heure actuelle, est toujours gardé secret.
Mais vous avez eu comme communication.
J'ai pu le consulter pendant l'espace de quelques heures, le copier et je le publie pour la première fois dans son intégralité dans l'ouvrage.
Alors, il ne vous a pas échappé en regardant le titre et en regardant la couverture du livre que le livre s'appelle évidemment « Qui a tué le Dahlia Noir ?» point d'interrogation, et en dessous « L'énigme enfin résolue ». C'est évidemment quelque chose qui nous interpelle, puisque ça fait partie des grandes, des affaires mythiques sur lesquelles on a eu, vous le disiez, il y a eu des gens qui se sont accusés de ce meurtre, plus de 400, c'est ça?
Oui. Bon.
Donc c'est absolument abominable.
Et encore la semaine dernière, quelqu'un a accusé son père d'être l'assassin du Dahlia Noir.
C'est pas, vous ne parlez pas de Georges Odell, là.
Non,
encore quelqu'un d'autre.
Parce
qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui. Oui, donc, en fait, Stéphane Bourgoin dit qu'il a résolu l'énigme. Alors, je ne voudrais surtout pas qu'on ait le nom de l'assassin ce soir. Parce que, je sais, c'est une affaire réelle, dramatique, mais il y a toute une narratologie, toute une façon de raconter cette histoire maintenant qui appartient aussi à la fiction. D'ailleurs, les romanciers s'en sont emparés. On en parlera aussi certainement tout à l'heure avec James Ellroy. Et donc, je ne veux absolument pas qu'on aille au bout, que vous puissiez vous faire vous lire ça, parce que ce livre se lit comme un polar. Hein. Il y a tous les jalons et on va essayer de reprendre un petit peu certains de ces jalons. Alors d'abord, on a parlé beaucoup déjà du criminel, mais j'aimerais que vous nous disiez maintenant qui était Elizabeth Short, cette femme qu'on a retrouvée donc assassinée.
Alors Elizabeth Short, ça incarne un peu le mythe hollywoodien. C'est une jeune provinciale un peu naïve qui vient du Massachusetts, donc pas très loin de la région de Boston. Elle a été élevée à Medford, dans le Massachusetts. Une vie un petit peu sans histoire, sauf que la famille est ruinée pendant la dépression, la Grande Dépression aux États-Unis, et le père quitte la famille et laisse à croire à son épouse et à tous les gens qu'il connaît qu'il s'est suicidé. En fait, il s'est installé en Californie et il ressurgira quelques années plus tard pour tenter à nouveau de renouer les liens avec la cellule familiale de la famille Short. La mère d'Elizabeth Short, Phoebe Short, refuse qu'il revienne au foyer, mais Elizabeth Short va le contacter et va le rejoindre en Californie pendant un moment. Mais elle a ce rêve, un peu ce mythe d'Hollywood, de devenir une starlette, voire une vedette à Los Angeles. Et donc, elle va un petit peu, c'est ce cliché, débarquer à la gare routière de Los Angeles avec sa valise en carton, où il y a tous ses effets personnels en 1946. Elle ne jouera dans aucun film, elle ne percera absolument pas à Hollywood.
Oui, parce que ça fait partie aussi des clichés qu'on retrouve dans le film du Dahlia Noir de James Ellroy, où on voit même des extraits de films. Et vous dites ça très clairement, Elizabeth Short n'est jamais apparue dans le moindre film. Le Dahlia Noir n'était pas une prostituée. Je vais éliminer toutes les fausses pistes et ensuite je vais vous demander de nous préciser quelques jalons. Donc, elle n'était pas enceinte au moment de son décès. Son corps n'a pas été torturé avec des cigarettes et le meurtrier ne lui a pas tranché un sein, pardon pour les détails. Elizabeth Short ne souffre pas d'un syndrome Mayer-Okhinsky-Küsterhauser qui se manifeste par une absence totale ou partielle du vagin. Les initiales BD pour Black Dahlia n'ont pas été gravées dans sa chair. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le film qui a été tiré du roman de James Ellroy, le Black Dahlia, de Brian De Palma. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. On voit que l'une des compagnes du héros a cette fameuse gravure sur le dos, BD. Alors, il a changé évidemment les noms. Le rituel du positionnement de son cadavre n'est pas une imitation des œuvres d'artistes surréalistes tels que Man Ray ou Magritte, parce que ça aussi, ça a été évoqué. Ça a été évoqué d'ailleurs par George Odell aussi,
voilà,
dans son
autre...
Et puis, le Dahlia Noir n'a pas été victime d'un contrat de la mafia hollywoodienne, qu'il s'agisse de Bugsy Siegel ou de Mickey Cohen, qui étaient les grands patrons de la mafia à l'époque. Alors, vous avez là déjà balayé un champ très large. Alors maintenant, je voudrais que vous nous disiez sur quoi vous partez, vous, et quels sont les premiers jalons de votre
Alors moi, c'est
enquête.
Une enquête qui m'a demandé au minimum à peu près 15 ans, voire peut-être un petit peu plus. Parce que une fois que j'ai eu en main ce fameux rapport d'autopsie, il m'indique que la victime a été gardée vivante près de 2 jours par l'assassin, qu'il l'a torturée de manière assez atroce qui a commis un certain nombre de rituels sur le corps, comme ce fameux sourire à la Joker qui a été fait de son vivant, hein, parce qu'il a commis des actes post-mortem, des actes sexuels, mais j'entrerai pas dans les détails, il figure dans le livre. Et surtout, il a un rituel très particulier, comme le diraient les profilers en carton d'esprit criminel. Il a une signature psychologique assez particulière, c'est qu'il a entièrement vidé le corps de la moindre goutte de sang et qu'il a complètement lavé le corps. Ça, c'est une chose, un rituel qu'on le retrouve quasiment nulle part dans l'histoire criminelle américaine. Donc, en lisant ce rapport d'autopsie, en me disant... On garde la victime vivante deux jours, on commet des tortures atroces, on fait un rituel très très particulier. Tout ça n'est pas un crime commis par quelqu'un de jeune sous l'emprise de la colère ou de la rage. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, qui a été fantasmé, qui est très sophistiqué. Donc pour moi... C'est un crime qui est commis par quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ce genre de choses, beaucoup fantasmé. Et pour moi, ça ne peut en aucun cas être un premier crime. Donc cette hypothèse qu'il avait déjà tué auparavant, je suis allé la valider auprès d'amis profilers du FBI à Quantico, les vrais, pas ceux qu'on voit dans les séries télé, qui m'ont dit effectivement... Tu as tout à fait raison, à 100%, l'assassin avait déjà tué auparavant. Et ils m'ont proposé, donc, en lisant ce rapport d'autopsie, en voyant toutes les photos que je publie de la scène de crime, de l'autopsie, etc., de me donner une tranche d'âge potentielle de l'assassin du Dahlia Noir. Donc à partir de là, ils m'ont indiqué qu'il avait au moins une quarantaine d'années, voire 50 ans, ce qui m'a permis de cerner l'âge où il a peut-être commis son premier crime. Donc pour moi, il est né aux environs de 1900, au plus tard peut-être en 1910, et... s'il est né en 1900, il a peut-être commis son premier crime en 1925. Donc je me suis dit, ça paraît simple comme ça à dire, qu'il faut que je rassemble tous les cold cases américains depuis 1925 jusqu'à 1950. Donc vous imaginez, ça représente des dizaines de milliers d'affaires, de crimes non élucidés. Pourquoi sur tous les États-Unis? Tout simplement parce que la plupart des tueurs en série, l'étude nous le montre, aux États-Unis sont plutôt des nomades, alors qu'en France, c'est plutôt des sédentaires. On a aussi des tueurs nomades, hein, Michel Fourniret, le routard du crime, Francis Holm, d'autres encore, mais généralement c'est plutôt la figure d'un Patrice Allègre qui va tuer dans la région de Toulouse, ou Guy Georges, tueur de l'Est parisien, ou Jacques Plumin à Strasbourg. Aux États-Unis c'est plutôt différent, hein. C'est des tueurs qui vont quelquefois assassiner dans 10, 20 États différents. Donc j'ai commencé à rassembler tous les dossiers possibles et imaginable. D'ailleurs, je vais vous emprunter le livre.
Oui, non, parce que c'est fabuleux, ça, c'est sûr. Avec le tableau, on se demande même comment vous avez pu faire.
Alors, voilà. J'ai reproduit 4 de ces tableaux où à chaque fois, il y a 4 ou 5 meurtres. C'est tous des tableaux que j'ai faits à la main avec mon écriture pâte de mouche. Où il y a la date, le nom ou l'âge de la victime, le mode opératoire, le rituel, le lieu du crime, si c'est associé à un lieu particulier, un fleuve, une autoroute, un rail de chemin de fer, etc. Là, vous voyez 4 tableaux. J'en ai fait 5000. Ça m'a pris un peu plus de 15 ans pour faire ça. Donc, j'ai activé tous les réseaux de policiers que je me suis fait au fur et à mesure que certains de mes ouvrages étaient traduits en anglais. Par exemple, mon bouquin Serial Killer, qui maintenant fait 1100 pages, que j'ai écrit pour la première fois en 1990. J'y ai toujours mis, avant Internet, mon adresse de librairie, mon téléphone de librairie. Puis depuis que Internet existe, il y a toujours eu mon adresse mail ou l'adresse de mon site Internet. Comme je suis aussi sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, etc., et que ce livre Serial Killer a été traduit dans 17 langues maintenant, je me suis créé un réseau personnel de milliers de policiers au fil des décennies. Comme j'ai travaillé à leur demande pour la gendarmerie nationale, mais en n'étant pas gendarme, pour m'occuper de la formation de leurs officiers pendant près de 15 ans, là aussi ça m'a permis d'avoir accès et d'être invité à des congrès, à intervenir, à aussi suivre la formation des profilers du FBI à Quantico en 2 fois 6 mois. Tout ça m'a permis de me créer un réseau personnel de milliers de policiers, de médecins légistes, de psychiatres, d'experts, de criminologues. Et tout ce réseau, je l'ai activé au fur et à mesure pour obtenir tous les dossiers sur ces cold cases. Quand j'ai rassemblé ce qui doit être à peu près 97 à 98% des dossiers sur tous les crimes non résolus pendant 25 ans aux États-Unis, j'ai tenté de trouver des modes opératoires et des rituels semblables au meurtre du Dahlia Noir. J'ai été aidé en cela aussi par un ancien gendarme qui était à la retraite, mais qui avait le logiciel qu'utilisent toujours les gendarmes, Analyst Notebook, qui leur permet avec des arborescences de créer des liens sur une ou plusieurs affaires criminelles. Et donc à partir de là, j'ai trouvé des similitudes entre un certain nombre d'affaires, en tout 6 affaires, une que j'ai éliminée très rapidement, 3 meurtres, que je qualifierais d'individuel, et 2 affaires de meurtre en série en Pennsylvanie et une affaire qui s'est déroulée entre 1934 et 1950 à Cleveland, qui s'appelle le boucher de Cleveland, qui avait aussi ce rituel totalement inhabituel de drainer les victimes de leur sang et de les laver entièrement à l'eau.
Alors on s'approche là... On s'approche là, je sens qu'on est en train de cerner le coupable.
Et non, mais je dirais pas.
Je voudrais qu'avant, puisque vous le faites dans votre livre d'ailleurs, on revienne sur la littérature, puisque c'est un livre. Et ce livre, et je le répète, se lit exactement comme un roman policier. Alors je voudrais qu'on revienne sur la littérature parce qu'il y a des écrivains qui ont émis des hypothèses. Vous les citez. Il y a Craig Rice qui est une femme. Qui
Benesch, le scénariste d'Howard Hawks et de Alfred Hitchcock.
Oui.
David Goodis, un des plus grands auteurs de romans noirs.
Voilà, prenons les hypothèses. Alors, vous l'éliminez aussi, d'ailleurs, ces hypothèses. Alors lui, David Goodis, il est quand même assez subtil dans son analyse.
C'est extraordinaire, son analyse, qui est faite l'année même des crimes. Oui. Pour le fameux Los Angeles Serial Examiner.
Mais le problème, c'est qu'il débouche sur l'idée d'un meurtrier unique.
Oui, oui, oui.
Donc ça ne correspond pas à
Non,
ça.
Parce qu'à l'époque, le concept de tueur récidiviste était quand même relativement rare. Hein. Même s'il y avait eu déjà des affaires de meurtre en série très célèbres, à la fois aux États-Unis ou même en Angleterre, comme un cold case sur lequel je me suis beaucoup penché, qui est Jacques l'Éventreur, en 1888, qui présente beaucoup de similitudes d'ailleurs avec le Dahlia Noir. Parce que là aussi... les légendes urbaines, les rumeurs ont pris, je dirais, le dessus sur la réalité des faits.
Hein. On a raconté 150 histoires différentes.
Oui, que c'était le chirurgien de la reine, le petit-fils de la reine Victoria, un complot franc-maçon, que là aussi, la dernière victime, une prostituée, avait épousé secrètement le petit-fils de la reine et attendait un enfant de lui, alors qu'elle n'était pas du tout enceinte, puisque là aussi, on possède le rapport d'autopsie de Mary Jane Kelly. Sauf que moi, dans mon livre qui est sorti d'ailleurs, la nouvelle édition, la même semaine qui a tué le Dahlia noir, le livre rouge de Jacques Léventreur que j'ai réactualisé pour l'édition Poche, je termine là totalement par un point d'interrogation. Je suis incapable de dire qui est l'assassin alors que je pense avoir
trouvé celui du Dahlia noir.
Avoir de fortes présomptions. Hein. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue.
Alors Craig Rice, elle dit que c'est un croque-mort. Pas inintéressant non plus, parce qu'il y a un savoir-faire.
Il y a un savoir-faire, des connaissances anatomiques que peuvent avoir aussi un médecin, un chirurgien. Mais à l'époque, les enquêteurs font venir des directeurs d'écoles de médecine pour l'affaire du boucher de Cleveland pour savoir si les découpes anatomiques ont été faites par quelqu'un qui a suivi un enseignement de chirurgie. Et donc, ils éliminent totalement cette hypothèse. Reste donc très souvent l'hypothèse d'un boucher ou d'un entrepreneur de pompes funèbres, parce que là aussi, il bénéficie d'un laboratoire où il peut conserver les corps et les découper à loisir. Hein. Les corps ont été, à la fois pour le boucher de Cleveland et pour le Dahlia noir, réfrigéré à un moment donné et déposé très tôt le matin. Donc il fallait que l'assassin ait forcément un véhicule, notamment pour le boucher de Cleveland, c'est quelque chose d'assez rare à cette époque-là. N'oublions pas que les crimes commencent en 1934. Et l'enquêteur en chef sur l'affaire du boucher de Cleveland est quelqu'un de très célèbre dans la réalité des faits, et aussi dans la fiction, puisqu'il s'agit d'Eliot Ness, le patron des Incorruptibles, qui a fait chuter Al Capone. D'ailleurs, c'est une coïncidence assez amusante. Lorsque j'ai fait le lien entre le boucher de Cleveland et le meurtre du Dahlia noir, on s'aperçoit qu'un seul et même réalisateur a tourné le film sur les Incorruptibles, et le Dahlia noir, c'est Brian De Palma, qui à l'époque ne fait et ne faisait toujours pas de lien entre ces deux affaires. Donc c'est purement une coïncidence.
Alors justement, avec Brian De Palma, là on est dans l'adaptation d'un roman, d'un espèce de monument de la littérature américaine, James Ellroy.
Alors que le film est médiocre.
Alors le film est clinquant, le film est médiocre. Il a quand même.
Il y a un film qui est bien meilleur avant, c'est Sanglante Confession.
Voilà, Sanglante Confession.
Avec Robert De Niro, ouais.
Et, mais alors, je voudrais quand même rester sur l'hypothèse d'Ellroy. Parce que Ellroy aussi, alors lui, il implique fortement le monde du cinéma dans le.
C'est un peu normal, mais en même temps, il a toujours prétendu que c'était une fiction.
Oui.
Que même si les faits étaient réels. Pour le reste, et il l'indique très très clairement dans tous ses entretiens, qu'il s'agit pour lui d'une fiction. Il a par ailleurs préfacé un livre aussi d'un ancien inspecteur de police de Los Angeles, Steve O'Dell, qui prétend que son père était l'assassin du Dahlia noir, mais depuis, James Ellroy est revenu sur cette
Avant de parler de Steve O'Dell, parce que Ellroy, souvent, dans son livre, il dit d'ailleurs « chercher la femme ». Et alors, je fais une liaison un petit peu abusive, mais dans le roman, dans la réalité, on a cherché la femme aussi. Non pas la femme comme victime, mais cette fois aussi comme possible coupable. Pourquoi alors ?
Tout simplement parce que le corps a été coupé en deux, et lorsque on coupe un corps en deux, ou en d'autres parties, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison utilitaire qui rend le transport plus aisé. Donc, comme Elizabeth Short pesait 52 kilos, chaque partie de corps faisait à peu près 25 kilos. Donc, c'est plus facile à transporter pour une femme, mais là aussi pour un homme, hein. Puisque le corps a été déposé avec des sacs de ciment sur le terrain vague où il a été découvert. Mais il a été tué, la victime a été tuée dans un autre endroit. Y Il y a la découpe utilitaire et puis il y a la découpe rituelle aussi, qui fait que le démembrement peut servir à des jeux sexuels, sauf que là, ces jeux sexuels sont intervenus, mais plutôt de manière post-mortem, puisqu'il y a des mutilations vaginales, des mutilations anales, etc., qui sont exercées sur le corps d'Elizabeth Short, mais après sa mort.
Bon, alors arrivons à la piste. Bon, alors donc, les femmes, parce que dans le film de Brian De Palma, on insiste sur les liens avec le milieu homosexuel. Elle va dans des bars, elle fréquente des femmes homosexuelles, elle aurait pu avoir une liaison.
Bah, elle a été vue le soir précédant sa disparition dans un bar gay qui s'appelle The Gay Way à Los Angeles. Hein.
Alors, la piste du père, ça aussi, ça, c'est amusant parce que vous dites qu'encore récemment, il y a quelqu'un qui a accusé son père d'être le coupable du crime. Alors là, avec Steve O'Dell, c'est quelqu'un qui était flic au LAPD. Son père était un chirurgien, je crois, assez réputé, et qui était en lien avec Man Ray, justement.
Collectionneur d'art.
Ça, c'est avéré.
Ami de John Huston. Le réalisateur du Trésor de la Sierra Madre, d'adaptation de Dashiell Hammett.
Ils avaient des relations qui étaient un petit peu coupables sur le plan
George O'Dell était visiblement un individu assez sordide qui a probablement violé sa propre fille, la demi-sœur de Steve O'Dell. Mais pour moi, il n'est absolument pas l'assassin du Dahlia Noir.
Alors, quand on écoute bien la version, j'ai vu le documentaire qui a été réalisé par 13e rue, où on voit George O'Dell, Steve O'Dell s'expliquer. Bon. Et c'est vrai, il y a un district attorney qui est avec eux, d'ailleurs, et qui authentifie tous les actes, toute la procédure, toute la recherche. Et moi, j'ai trouvé ça assez convaincant. Alors, ce qui prouve qu'on arrive à démontrer quand même assez facilement des choses. C'est le propre même d'ailleurs de ce que font les auteurs. Ils vous roulent dans la farine, les auteurs de polar, je parle, parce qu'eux, ils connaissent tout ce que vous ne savez pas. Et il suffit de vous mettre bout à bout certains indices pour arriver à vous convaincre de la culpabilité ou pas de quelqu'un. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était quand même très convaincant.
Alors, oui, mais
éliminer cette piste.
Alors, il accuse son père aussi dans le même ouvrage et dans deux autres ouvrages qui, eux, sont restés inédits en France. Alors que le premier est vraiment excellent, qui s'appelle L'affaire du Dahlia Noir, tout simplement, qui est disponible chez Point. Moi, je trouve que c'est un très bon roman, mais pas du tout un document.
Pas une enquête.
Voilà. Parce qu'il accuse son père d'avoir commis des crimes, dont à un moment, deux crimes qui sont commis à 2 heures d'intervalle à 600 km de distance. Alors. À cette époque-là,
c'est quand même une sacrée objection.
Oui. Une des victimes aussi dont il accuse son père d'avoir commis le meurtre, il dit que la victime a été piétinée à mort. Or là, le rapport d'autopsie existe, c'est le meurtre de Jeanne French. Quand on examine et qu'on lit ce rapport d'autopsie, il y a l'empreinte du pied qui a servi à tuer en piétinant à mort la victime. Or, cette empreinte de pied ne correspond absolument pas à la taille du père de Steve O'Dell. Bon, ça, c'est un exemple. Dans le dernier ouvrage qu'il a écrit, Black Dahlia Avenger, qui date d'il y a 3 ans, qui n'est pas traduit à ce jour, qui est d'ailleurs pas très bon. Il est très mal écrit, un peu bâclé. Je pense qu'il a manqué d'un directeur littéraire pour réviser son texte. Il accuse son père maintenant d'être l'auteur de 2 autres types de meurtres en série, dont les crimes du Zodiac. Ce qui paraît totalement aberrant, parce que les crimes du Zodiac, le Zodiac n'a jamais approché aucune de ses victimes, n'a jamais commis aucun acte sexuel. C'est un serial sniper, si vous avez vu le film de l'excellent film de David Fincher. Ouais. Et donc, accuser quelqu'un qui a commis le crime du Dahlia Noir et d'autres crimes sexuels, d'avoir évolué dans le temps pour être devenu un serial sniper par la suite, avec un mode opératoire, un rituel, l'écriture de lettres qui n'ont absolument plus rien à voir avec le meurtre du Dahlia noir, c'est totalement aberrant. Et là, je peux vous dire que la réception de cet ouvrage de Steve O'Dell, il a été totalement ridiculisé par toutes les forces de l'ordre aux États-Unis. Et à partir de là, James Ellroy a dit « Je reconnais que j'ai commis une très grave erreur en endossant l'hypothèse de Steve O'Dell ». Et il rajoute de sa manière très particulière à lui, il dit « Même Dieu commet des erreurs ». Oui. Vous reconnaîtrez là.
Oui, on reconnaît la patte d'Ellroy.
La patte d'Ellroy.
Alors, il y a quelque chose quand même qui est...
Cela dit, moi, contrairement à O'Dell, moi, je ne prétends pas, encore une fois, détenir la vérité absolue dans cette affaire. Je dis juste que tout le faisceau de présomption pointe vers un même individu. Que mon hypothèse a été validée par les profilers du FBI et qu'il y a un rapport secret du procureur général de Los Angeles qui date de 1982 qui indique que ce suspect que j'identifie, s'il n'était pas mort dans l'incendie de sa chambre d'hôtel en 82, allait être mis en examen par le Los Angeles Police Department pour le meurtre du Dahlia noir. Moi, je vais plus loin puisque je l'accuse d'avoir commis 20 autres crimes. Mais je ne pourrai jamais valider de manière scientifique mon hypothèse parce que cet individu a été incinéré. Donc, il n'y a plus possibilité d'exhumer son corps et de faire d'éventuelles comparaisons ADN.
Vous parlez aussi dans votre livre de la corruption quand même du LAPD qui a quand même beaucoup du service de police de Los Angeles qui a beaucoup contribué à brouiller toutes les cartes. Alors on parlait tout à l'heure, vous parliez en introduction du rapport d'autopsie, mais ce rapport d'autopsie, ça, le fait qu'on n'y ait pas, vous avez expliqué pourquoi il n'avait pas été communiqué, mais il y a aussi eu beaucoup de fantasmes sur qu'est-ce qu'on pouvait cacher avec
oui,
ce rapport
d'autopsie. Que beaucoup des journalistes qui étaient présents sur la scène de crime ont écrit des articles, voire des livres de mémoire, où il publie un certain nombre de faits erronés. Vous en avez mentionné tout à l'heure avec le fait qu'on lui ait soi-disant tranché une oreille, tranché un sein, qu'on l'ait brûlé avec des mégots de cigarettes. Tout ça est entièrement faux et est totalement invalidé par le rapport d'autopsie. Mais tous ces articles de journalistes, tous ces mémoires de journalistes ont par la suite été véhiculés par les auteurs qui ont commencé à écrire, curieusement, les premiers livres entièrement consacrés à l'affaire du Dahlia noir. Là, je ne parle pas de fiction, je parle de documents, commencent à paraître qu'en 1990. Et tous les premiers auteurs accusent leur père d'être l'assassin. Donc c'est pour ça que j'ai un chapitre assez ironique que j'intitule « C'est papa qui l'a fait ». Et dans ma préface, j'indique d'ailleurs que je dois être le premier auteur à ne pas accuser son père d'avoir commis le meurtre du Dahlia noir. Mon père avait un alibi.
Dans le cadre de ces enquêtes, alors là littéraires, mais qui correspondent quand même à des... Parce que James Ellroy, dont on parlait, a vécu un drame terrible lui aussi. Hein, quand il était enfant, il avait 10 ans. Et sa mère a été assassinée. Donc c'est la poursuite aussi obsessionnelle d'une enquête sur sa mère qui a déterminé une bonne partie de son œuvre. Maintenant, il dit en avoir fini avec cette partie-là. Il s'attaque à autre
Sauf
chose.
Sauf que son nouveau roman, qui sort dans 3 mois en France, Perfidia chez Rivage, c'est une préquelle au Dahlia noir. Donc, on retrouve 4 des personnages héros principaux du Dahlia noir avant le meurtre d'Elizabeth Short. Mmh. Donc, à nouveau, on va parler du Dahlia noir et Ellroy va être obligé d'en parler puisque je suis sa promotion mondiale. Il y a 15 jours, il était en Angleterre. Là, il était au Japon. Même s'il dit qu'il ne veut plus en parler, il est obligé d'en parler, puisque quatre des personnages principaux de son nouveau roman figurent dans son prodigieux roman qui est le Dahlia Noir.
Oui, qu'il a écrit en mémoire, en hommage à sa propre mère.
Oui, qui a été tué 11 ans après le meurtre du Dahlia Noir. Geneviève Illicaire en 1958.
Oui, exactement.
Par rapport d'ailleurs à la fiction, j'ajoute une chose, c'est que avant le film de Brian De Palma et avant Sanglante Confession, il y a eu d'autres films ou téléfilms ou séries télé qui se sont intéressés au Dahlia Noir. Et là, cette semaine, je viens d'acheter les droits personnellement du meilleur film sur l'affaire du Dahlia Noir qui date de 1975, qui est inédit en France et que je vais sortir probablement en DVD d'ici 3 mois à peu près, qui s'appelle Who is the Black Dahlia et qui date de 1975.
Ça, c'est une fiction,
c'est une
enquête documentaire.
Mais qui est très proche de la réalité. Mmh. J'en parle d'ailleurs dans le livre, dans la partie filmo du livre, parce qu'il y a aussi toute une partie bibliographique.
Oui, qui est très riche, oui. Et pour en finir avec Elroy, qui est quand même aussi l'un des promoteurs de cette histoire du Dahlia Noir, il a fait un peu ce qu'a fait Steve Odell avec son père. C'est-à-dire que lui, il a embauché un flic, Bill Stoner, et il a mené l'enquête pour savoir qui avait tué sa mère. Et bon, Bill Stoner est un flic honnête. Il avait très peu de chances de trouver le coupable. Et d'ailleurs, il a dit à Elroy, d'abord, il a fallu se replonger dans les archives, mais c'est évident que ça a changé Elroy. Ils n'ont pas trouvé le coupable, mais ça a changé Elroy parce que ça l'a remis en présence des archives, notamment de la robe que portait sa mère au moment de sa mort. Et donc, on imagine le trauma, le retour de traumatique que ça peut provoquer.
D'ailleurs, je vous signale, sur Internet, vous pouvez le trouver. Il y a un documentaire, La fête de la mort, Feast of Death.
Oui.
Un documentaire où se figure Bill Stoner, James Elroy, un journaliste, Larry Harnish, et Feast of Death, voilà, qui date de 2001. Il y a l'acteur aussi Nick Nolte qui est dedans. Et vous pouvez le voir, Feast of Death ou James Elroy Feast of Death. Si vous le tapez sur YouTube ou Dailymotion, vous pouvez voir ce documentaire, bon, qui n'est évidemment pas sous-titré, mais peut-être vous pouvez activer le sous-titrage.
Oui, le sous-titrage peut-être.
Mais vous verrez, c'est toute une soirée, ils sont en train de dîner ensemble. Et ils étudient toutes les différentes hypothèses sur le meurtre du Dahlia Noir et le meurtre de la mère de James Elroy. C'est un documentaire vraiment passionnant que vous pouvez voir sur Internet.
Je ne sais pas s'il n'est pas dans les bonus, dans le DVD sur le Dahlia Noir de Brian De Palma. Parce que j'ai vu un entretien avec Bill Stoner, effectivement.
Mais là, c'est un repas où ils sont tous en train de... C'est un documentaire de la BBC. Okay.
Bon, alors donc... On va arriver au terme de cette exploration. On n'a pas donné le nom du coupable, mais vous avez vu quand même que Stéphane Bourgoin nous a approché beaucoup en éliminant d'abord.
Alors,
déjà.
Le nom de ce coupable figure dans un des dossiers des meurtres du boucher de Cleveland, puisqu'il y a un témoignage qui le dénonce. En indiquant son identité, et son identité, on le retrouve dans d'autres affaires criminelles où sa description physique est très particulière, puisqu'il mesure 1m92 et il boite de manière extrêmement prononcée. Donc à partir de là, je retrouve soit cette description d'un suspect sur plusieurs autres affaires criminelles. On le voit s'enfuir et abandonner le véhicule de la fille d'un riche héritier du pétrole à Los Angeles en 1944, qui s'appelle Georgette Bauerdorf. Et il est nommé aussi, à un moment donné, comme suspect sur deux autres affaires criminelles, donc soit par son physique, soit par sa profession, soit par son identité. Je le lis à ces 21 affaires différentes.
21, c'est quand même pas rien. Donc on a pratiquement le nom du coupable au bord des lèvres, mais on va bien sûr pas le donner.
Pas forcément connu, hein.
Oui, oui. Et puis, je le rappelle, ce livre. Alors, moi, j'ai une objection à faire, que j'ai faite cette objection à l'éditeur quand on a parlé de votre livre. Ce sont parce que l'enquête se lit comme un roman. Et à mon avis, il n'y avait pas besoin de mettre certaines photos. Alors, je pose la question.
Oui, je me suis moi-même beaucoup posé la question, parce qu'il y a des photos totalement...
Il y a des photos d'enquête qui sont... Et puis, on se demande pourquoi, quoi. Je veux dire, le récit...
Alors, moi, je vais vous le dire, hein, parce que je me suis posé la question longtemps. Parce que dans mes autres livres, je ne mets pas de photos de scènes de crime, ou très, très peu. Et là, j'ai tenu absolument à mettre ces photos, y compris les plus crues, et les photos de l'autopsie aussi de la victime. Parce que, justement, la fiction s'était trop emparée de cette affaire et on avait l'impression que le Dahlia Noir, c'était quelqu'un de virtuel, que c'était une invention du cinéma, une invention romanesque. Or, c'était quelqu'un qui a réellement existé, Elizabeth Short. Et pour faire comprendre le rituel particulier de cet assassin, qui est totalement hors norme, je me suis dit qu'il y avait une seule manière de le faire, au-delà des rapports d'autopsie, aussi pour le boucher de Cleveland que je publie, c'était de publier ces photos de scènes de crime, donc je l'assume totalement.
D'accord. Bon, j'entends tout à fait ce que vous dites.
Et j'avais voulu que l'éditeur fasse un livre sous scellé et mette un bandeau d'avertissement, mais il trouvait que ça coûtait trop cher. Et donc, il a renoncé à le faire.
Alors, vous donnez une réalité, évidemment. Là, on sort du sourire et de la fiction. Effectivement, c'est le projet que vous avez et qui est tout à fait entendable, en tout cas.
Mais c'est vrai que... Moi, je comprends ces objections, tout à fait. Hein.
Oui, puis nous...
Moi-même, je me suis posé ces questions.
C'est par rapport au lecteur. C'est vrai que le lecteur... Tout à l'heure, je parlais du conte, je parlais de l'inquiétude rassurante de la voix maternelle qui nous raconte des histoires. Mais c'est vrai qu'à la fin du Chaperon Rouge, souvent, on découpe le loup et « Oh, bonjour hein, !» Tout finit bien. La réalité, c'est autre chose. Et donc, le déni de réalité, ça existe aussi. Et donc, je comprends tout à fait votre démarche et je la trouve très respectable. Maintenant, à nous de savoir si on est capable d'assumer. Moi, j'avoue que j'ai du mal à regarder ces photos. Et donc, d'abord, ça m'a surpris parce que j'étais arrivé au milieu du livre. Il y a d'autres photos qui sont tout à fait... qui pouvaient être considérées comme assez dures déjà. Mais j'étais arrivé au milieu du livre quand je suis tombé sur les plus violentes.
Oui,
on parlera de violence. Et donc, ça m'a provoqué une première réaction en me demandant pourquoi. Effectivement, l'éditeur m'a dit la même chose. Hein. Il m'a dit que c'était un hommage à Elizabeth Short pour lui rendre la réalité de sa vie et de sa mort. On va conclure. Je remercie encore une fois Stéphane Bourgoin d'avoir été à ce point disponible. On se rend compte qu'on aurait pu rester là encore une partie de la nuit. Et on retrouve les vieux débats entre Lynn et Lackey qui sépareront définitivement toujours les États-Unis de la vieille Europe. Mais qui demande à être approfondi parce qu'on découvre sans arrêt des choses nouvelles et ce n'est pas forcément un débat qui est tranché. Voilà, je vous remercie beaucoup aussi d'être venu.
Et merci à Lionel Germain d'avoir animé ce débat.
C'était un vrai plaisir.
De manière brillante.
Merci beaucoup.